France Culture, 7h-9h, les matins d'été, Chloé Cambrelin.
En juin 2019, un comité d'experts se réunissait au ministère de l'Intérieur pour réfléchir à une révision du schéma national du maintien de l'ordre. Au mois de septembre suivant, Christophe Castaner disait n'avoir aucun tabou, être prêt à tout revoir. Nous voilà un an plus tard, toujours pas de nouveau schéma, il est désormais annoncé pour la rentrée. Pas plus de livre blanc de la sécurité intérieure, pourtant en chantier également depuis de longs mois. Christophe Castaner n'est plus ministre, son successeur Gérald Darmanin a dit mardi s'étouffer lorsqu'il entend parler de violences policières. Mais des manifestations de grande ampleur ont eu lieu pour les dénoncer il y a quelques semaines. Jacques Toubon, avant de quitter ses fonctions de défenseur des droits, a réitéré ses critiques sur les pratiques du maintien de l'ordre. Dénonciation aussi de comportements et propos racistes dans la police, lundi encore, avec le témoignage recueilli par Street Press d'un brigadier chef rapportant les insultes proférées par certains collègues au dépôt du TGI de Paris. Résultat, un mur de défiance entre une partie de la population et des forces de l'ordre qui se sentent injustement et globalement attaquées alors qu'elles travaillent avec des moyens insuffisants et sous une pression folle depuis des années. Police, l'impossible réforme, deux invités avec nous ce matin. Et d'abord vous, commandant Nassim, bonjour.
Bonjour.
Commandant de la police nationale, vous avez 37 ans d'expérience. Vous avez commencé gardien de la paix dans les services administratifs. Vous intervenez ce matin sous pseudonyme, comme vous avez témoigné récemment dans l'Express, à propos de ces questions, du racisme en particulier. D'abord, j'aimerais que vous nous expliquiez ce choix de témoigner et de le faire sans donner votre véritable identité.
Oui, mon choix s'inscrit dans une démarche qui est celle d'être le plus libre dans mon expression. Mm-hmm. Et aussi pour des raisons aussi qui tiennent au fait que j'ai été prévenu relativement tardivement, ce qui ne m'aurait pas permis d'obtenir une autorisation de la part de ma hiérarchie. Mais c'est aussi et surtout un témoignage que je voulais faire et qui se veut constructif.
Témoignage donc notamment des faits de racisme que vous avez pu voir et parfois subir. Tout de même, est-ce que ça n'est pas une forme d'échec que de devoir passer par cette voie, par les médias, pour dire ce que vous avez à dire? Vous n'êtes pas le seul. Il y a aussi ce matin encore dans Libération des policiers qui témoignent. Lorsque l'on est policier, y compris commandant de police avec 37 ans d'expérience, on ne peut pas se faire entendre, essayer de faire bouger les choses de l'intérieur.
Oui, alors je dirais que quand même malgré tout, il y a une 37 ans, les choses ont quand même quelque peu évolué. Et d'ailleurs, si on réfléchit bien, l'une des plus grandes évolutions que la police ait connue, ça a été par exemple la création du code de déontologie qui a été créé en 1986 et que l'on doit à Pierre Joxe et qui a justement permis à ce qu'il y ait une prise de conscience sur ce fait sociologique, sur ce racisme, j'allais dire presque endémique au sein de l'institution policière, parce que c'est une réalité. C'est surtout ça ce dont je veux parler notamment.
Racisme endémique, c'est-à-dire?
C'est-à-dire que c'est quelque chose qui touche toute la police. C'est une réalité. C'est-à-dire que cette idée selon laquelle il s'agirait de quelques brebis galeuses, moi ne me satisfait pas, ne reflète absolument pas la réalité. Elle est réductrice. Bon, je peux comprendre tout à fait que ce soit plutôt gênant que depuis toutes ces décennies cette réalité soit encore d'actualité. Mais lorsque l'on parle de brebis galeuses, j'ai envie de parler de troupeaux de brebis galeuses, parce que c'est une réalité. Si vous demandez à une dizaine de policiers, ont-ils déjà assisté à une scène de racisme au sein d'un service de police, c'est impossible que vous n'ayez pas 90-100% de réponses positives, puisque c'est une réalité. Alors après, la question étant, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Est-ce que l'on assiste de façon, sans réagir, ou est-ce que l'on propose des solutions? J'ai pour ma part déjà été amené à soulever un certain nombre de problématiques, mais il semblerait que l'actualité reprend son On reprend le dessus, les problématiques propres à la police également, ce qui est assez compliqué pour se faire entendre.
Alors nous allons poursuivre la discussion avec vous. Avec nous également ce matin, Olivier Kahn, bonjour.
Bonjour madame.
Vous enseignez le droit pénal à l'Université de Tours et vous êtes chercheur au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. D'abord sur ces prises de parole, ces témoignages venus de l'intérieur pour dénoncer des dysfonctionnements. Il y en a, je le disais de nouveau aussi dans Libération ce matin. Est-ce nouveau, plus fréquent et peut-il y avoir aussi un effet d'entraînement ?
Alors, ce n'est pas tout à fait nouveau puisque on a déjà eu, par exemple, il y a une dizaine d'années, une jeune femme qui avait quitté la police avec perte et fracas en sortant un livre qui s'appelait Omerta dans la police et qui parlait à peu près de la même chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a une tradition dans la police qui est de dire que il y a des problèmes, on en est conscient et on va les régler en interne. Et donc, par définition, les choses ne sortent pas. Or, là, on voit, et les témoignages que nous venons d'entendre de l'autre invité, comme ceux qui sont sortis ces derniers jours dans la presse, montrent que on a affaire à des policiers qui disent avoir alerté depuis longtemps, et pour le témoignage de Street Press, il y avait aussi des procès-verbaux qui avaient été remontés à la hiérarchie et qui finalement sont dans la position que prévoient les textes s'agissant des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire que on alerte en interne, on fait des procès-verbaux, il ne se passe rien et on finit par mettre les choses sur la place publique. Alors pour finir de répondre à votre question, oui, ce qui est intéressant, c'est de voir une espèce de phénomène d'entraînement, c'est-à-dire que il y a quelques années, c'était ponctuel, un fonctionnaire de police en général au moment de quitter la police faisait une déclaration fracassante, là on est dans un moment où les déclarations sortent.
Et est-ce que justement, alors cette possible accumulation, enfin en tout cas ces témoignages venus de l'intérieur peuvent justement changer la donne et de quelle façon sont-ils aussi reçus par l'institution ?
C'est une question extrêmement compliquée. On pourrait dire qu'il devrait changer la donne, c'est-à-dire qu'effectivement, comme le vient de le dire l'autre invité, le problème est endémique. Donc s'il est endémique, théoriquement, le politique devrait s'en emparer pour tenter de réformer les choses. Et moi qui travaille depuis quelques années sur la police, ça fait quand même des années que je lis, entre autres, sous la plume des sociologues de la police, l'idée que sur ces questions, la formation n'est absolument pas faite, que contrairement à d'autres pays comme le Royaume-Uni ou l'Allemagne, il n'y a absolument aucun enseignement sur les effets particuliers du métier de policier sur l'appréhension des populations et entre autres des populations immigrées. Et donc théoriquement, on devrait s'en emparer. Maintenant, est-ce que le ministère actuel ou ceux qui l'ont précédé est capable de s'en emparer ? J'en suis pas sûr.
Alors, vous dites, commandant Nassim, que des comportements et des propos racistes au sein de la police, vous en avez vu, vous en avez été victime. Et vous dites, justement, que le problème aussi, c'est la façon dont l'institution les gère. C'est-à-dire ce qu'Olivier Kahn disait à l'instant et ce que disent effectivement la plupart de vos collègues qui témoignent dans la presse. On signale, mais il ne se passe rien. Ou pour reprendre la une de Libé ce matin, si tu ne couvres pas, t'es un traître.
Oui, tout à fait. C'est beaucoup cela. C'est-à-dire que nous sommes confrontés à une sorte de d'omerta, une sorte, je dirais même plus que ça, un déni qui est lié au fait que si on ouvre cette boîte à Pandore, ça va avoir des répercussions, ça va mettre en cause la structure, l'organisation, ça va mettre en cause aussi la hiérarchie avec tout ce que ça peut impliquer comme responsabilité. Et tout ça crée justement ce déni. Et puis il y a une forme aussi de, il faut aussi le dire, une sorte d'autocensure de la part du fonctionnaire qui dit au fond j'abandonne. Est-ce que vraiment est-ce que vraiment le combat vaut le coup? Est-ce que vraiment je ne risque pas de prendre plus de coups que si je me taisais? Et finalement les choses finissent par s'aplanir, si ce n'est qu'on finit par vivre avec. Et cette autocensure est une réalité au quotidien. Et je le vois au bout de presque 4 décennies, que c'est une réalité qui persiste.
Mais c'est aussi une réalité peut-être concernant tous les sujets, c'est-à-dire, vous dites auto-censure, certains peuvent dire aussi solidarité de corps, nécessité aussi de se serrer les coudes parce que les conditions de travail sont difficiles, parce que voilà, on connaît les problèmes de moyens, etc.
Oui, j'entends bien, mais je crois que l'on fait un lien de causalité qui pour moi n'a pas lieu d'être. Dire que la police nationale étant confrontée à une difficulté, notamment dans les quartiers sensibles ou par rapport au terrorisme, ou par rapport à d'autres difficultés, ne serait seulement dans ses conditions de travail. Et rattacher ça à une sorte de permis de racisme, si je puis dire, enfin de permis de dire ce que l'on veut, d'injurier, de tenir des propos acerbes en direction de populations issues des minorités, je pense que c'est ce qui s'appelle prendre un raccourci. C'est de quoi parlons-nous ? Nous parlons de la police républicaine, la police d'État, qui est au service des concitoyens, de tous les concitoyens. Et je le dis avec force, mais c'est une réalité. On ne peut pas accepter que on laisse passer des propos au sein d'un service, au su et au vu de la hiérarchie, parce que au final, on finit par être dans une sorte d'entre-soi professionnel qui est néfaste dans le service même de la police, c'est-à-dire le service public.
Alors, je le disais au début, le débat est aussi en ce moment très très tendu sur la question des violences policières. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. C'était mardi, devant la commission des lois de l'Assemblée nationale.
Quand j'entends le mot « violence policière », personnellement, je m'étouffe. La police exerce une violence, certes, mais une violence légitime. C'est vieux comme Max Weber. Après, elle doit le faire de manière proportionnelle, elle doit le faire de manière encadrée, que quelques personnes le fassent en dehors des règles déontologiques, de la sanction doit être immédiate. Mais il est normal que les policiers et les gendarmes soient armés, interviennent pas la force, pour que justement la force reste à la loi de la République et pas à la loi des bandes ou des communautés. Donc par principe, l'idée même de violence policière me paraît être totalement antinomique d'utiliser ces deux mots. Voilà. Il peut y avoir des dérives qu'on doit sanctionner, et je pense que les gouvernements les sanctionnent, et s'ils ne le font pas, il faut que la presse, les syndicats, les parlementaires rappellent évidemment à la hiérarchie policière, au ministre de l'Intérieur, ce qu'ils doivent faire, et c'est bien légitime, mais je ne pense pas qu'il faille comparer les violences. Voilà, il y en a qui sont légitimes, c'est l'exercice de la force par la police, il y en a qui sont illégitimes, c'est l'exercice de la force par des gens qui ne sont pas policiers ou pas gendarmes.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, alors il y a ce terme « j'étouffe » qui a énormément fait réagir. Au-delà, commandant Nassim, cette expression « violence policière » en tant que policier, vous la recevez comment ?
Oui, alors vous pensez bien que j'ai déjà eu à utiliser la violence pour mettre hors état de nuire une personne qui pouvait causer un trouble de quelque nature qu'il soit. Là, je pense qu'on parle de deux choses là encore une fois différentes. La violence légitime, par définition, elle correspond, comme ça vient d'être dit à l'instant, elle correspond à un certain nombre de critères, la proportionnalité, l'instant. Bon, elle répond effectivement à un besoin et la police effectivement a le pouvoir de pouvoir l'exercer. Mais nous ne parlons pas de ça. Dans la problématique qui est soulevée, il me semble que nous parlons des violences illégitimes. Et on peut pas comme ça passer d'un coup de main en disant non, nous ne parlons que de la violence légitime. Non, les violences qui sont exercées en direction des populations et qui ne relèvent pas de cette violence légitime. Et vous pensez bien qu'il ne s'agit pas de dire à une personne qui vient de commettre un vol, par exemple, de lui dire au nom de la loi je vous arrête, parce que nous pouvons soupçonner que la personne ne s'exécutera pas. J'ai déjà été amené à le faire pour justement pousser le bouchon jusqu'au bout et ça ne marche pas. Donc on peut comprendre qu'il y a la violence légitime, que l'on puisse exercer. Ce n'est pas de si on parle de celle-ci, évidemment, elle est censée être légitime, parce que sinon, nous n'arrêterions personne.
Évidemment.
Et les gens seraient en droit de s'en inquiéter.
Mais là, effectivement, dans l'emploi, en ce moment, enfin depuis quelques semaines, quelques mois, voire plus de cette expression violence policière, effectivement, ça n'est pas de cela qu'il s'agit. Vous, est-ce que cette expression de violence policière, vous la trouvez, elle, pour le coup, légitime pour parler de ce que vous disiez, c'est-à-dire pas, en l'occurrence, de l'emploi légitime de la force, mais d'autre chose?
Justement, lorsqu'il s'agit d'autre chose, lorsqu'il ne s'agit pas d'une violence qui est exercée pour mettre hors état de nuire ou pour conduire une personne au poste parce que cela relève d'un contrôle qui a lui-même, qui rentre dans un cadre légal, c'est tout à fait normal d'utiliser la force. Enfin, pour moi, ça ne me choque pas. Normalement, la personne devrait suivre le policier. Bon, il s'avère que ça ne se passe pas comme ça sur le terrain. Il faut aussi être réaliste. Après, sur les violences illégitimes qui peuvent être causées, notamment dans des geôles de garde à vue, par des comportements déviants de la part de policiers qui veulent se venger ou qui ont une attitude de... Là, nous ne sommes pas du tout dans ce caractère-là. À partir du moment où les menottes sont passées à la personne et qu'elle est sous main de justice, si je puis dire, en tout cas sous main de police, il n'y a aucune raison d'utiliser de violence, sauf à ce que la personne vienne à résister ou se débat. Et là, naturellement, le policier est tout à fait en droit. Il y a le droit, mais il y a aussi ce que l'on met derrière le droit, ce que l'on met derrière ces violences. Si elle est légitime, naturellement, elle doit être utilisée. Après, sur les techniques à utiliser, là, ça mérite une plus grande réflexion.
Et nous en parlerons tout à l'heure.
D'accord.
Non, mais pardon, allez-y.
Oui, pardon. Je voulais dire que sur les techniques qui sont à utiliser, ça, ce sont les techniciens, ce sont les praticiens qui pourraient apporter leur expertise. Mais je peux vous dire qu'en ce qui me concerne, j'ai déjà été amené à utiliser la force, et fort heureusement que j'ai pu l'utiliser pour porter assistance à des personnes qui étaient effectivement dans le besoin. Mais la violence illégitime, c'est-à-dire la violence gratuite, la violence... Je suis assez d'accord que l'on mélange pas... Enfin, qu'il y aurait une caractéristique de violence policière, que l'on caractériserait par un certain nombre, enfin, par des coups portés sous telle ou telle forme. Je pense pas que c'est de ça que l'on parle. Par violence illégitime, par violence policière, donc illégitime, ce sont des violences qui ne correspondent pas au champ applicable, au champ légal. Et je crois que c'est surtout ça qu'il faut soulever. Et quand j'entends par ailleurs qu'il y a des sanctions immédiates qui sont relevées, eh ben écoutez, c'est très bien, mais il faut aussi s'interroger sur le pourquoi il y a autant de violences illégitimes commises par des fonctionnaires de police, et s'il n'y a pas lieu justement de s'interroger sur la ne serait-ce seulement la formation qu'évoquait tout à l'heure Monsieur Kahn, et un certain nombre de dispositifs à mettre en place pour justement rappeler un petit peu le policier à l'ordre.
Alors Olivier Kahn, il y a ces engagements qui existent, que j'ai rappelé au début, donc sur une réforme du schéma de maintien de l'ordre, donc désormais annoncé pour la rentrée, ce livre blanc aussi de la sécurité intérieure, qui a pour objectif affiché d'améliorer la relation entre les forces de sécurité intérieure et la population. Il y a eu une centaine de citoyens associés au mois de janvier à cette réflexion. Pourquoi est-ce que ça avance aussi lentement ?
Alors avant de répondre à ça, si vous voulez bien, je vais juste dire un mot sur le point précédent. Mmh. Je reviendrai pas sur le j'étouffe qui relève soit du lapsus, soit du cynisme, et en tous les cas donc de compétences psy qui sont pas les miennes. Mais en revanche, ce qui m'intéresse, c'est ce que dit avec une certaine arrogance comme ça le ministre sur Weber, en disant la violence légitime, on le sait depuis. Or, d'abord, c'est pas tout à fait ce que dit Weber. Weber parle d'une revendication de la violence légitime par l'État. Et ce qui me paraît intéressant, c'est qu'on peut le rattacher à ce que vous disiez avant sur le racisme, c'est-à-dire ça nous ramène à ce que Monjardet appelait le syndrome de la forteresse assiégée, qui est cette police qui refuse toute critique extérieure, toute possibilité, et dont on voit que le ministre, qui pourtant est un politique et devrait au contraire être celui qui ouvre les voies de possibles réformes, épouse complètement. Et là, on a quelque chose de très intéressant dans l'attitude de Monsieur Darmanin, qui consiste à dire donc que toute violence utilisée par la police serait légitime. Ce qui est une espèce d'aboutissement complet de la pensée de Weber, qui disait justement que comme si cette revendication était aboutie. Or, comme le disait le précédent intervenant, c'est complètement impossible. C'est-à-dire, il suffit juste de lire le code pénal. L'article 222-13, quatrièmement du code pénal, prévoit bien les violences volontaires par titulaire de l'autorité publique. C'est-à-dire, prévoit bien que des fonctionnaires de police peuvent commettre des violences illégales pour lesquelles ils seront sanctionnés. Donc on a un problème de ce côté-là de la part du ministre. Alors pourquoi est-ce que ça avance si lentement ? Ça avance si lentement parce que on est dans une situation aujourd'hui où le gouvernement ne peut pas se permettre de déplaire à la police. Et donc toute réforme et toute question particulière doit être avancée avec une extrême prudence, et on attend donc juste le temps d'un moment qu'on estime opportun pour que la police ne réagisse pas violemment, puisque il faut, et la rentrée qui s'annonce encore plus, enfin le justifie encore plus, il faut que la police soit parfaitement loyale à l'État.
Police, l'impossible réforme, suite de la discussion ouverte à 7h40 ce matin. Nous avons parlé du racisme, des violences régulièrement dénoncées, y compris à l'intérieur, avec des témoignages de policiers. Annoncé de longue date, le nouveau schéma national du maintien de l'ordre devrait être rendu public à la rentrée. On attend aussi le livre blanc sur la sécurité intérieure. Nous sommes toujours avec vous, Olivier Kahn. Vous enseignez le droit pénal à l'Université de Tours. Vous êtes chercheur au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Et avec vous, commandant Nassim, commandant de la police nationale, 37 ans d'expérience. Vous intervenez ce matin sous pseudonyme et vous en êtes expliqué à 7h40. Olivier Kahn, juste avant le journal de 8h, vous nous disiez à propos de cette réforme, de ce schéma du maintien de l'ordre, le politique ne peut pas fâcher la police, surtout pas en ce moment. Pour le coup, parmi les sujets qui fâchent vraiment, il y a justement les techniques utilisées, les techniques et les armes, la clé d'étranglement, le plaquage ventral, le LBD pour ce qui est des armes. Là-dessus, il y a les critiques répétées du défenseur des droits qui, juste avant de quitter ses fonctions, Jacques Toubon, a de nouveau demandé l'interdiction du LBD. Il a aussi proposé la fin des mesures d'encagement de NAS. Est-il possible d'évoluer là-dessus, sur ces pratiques, sur ces techniques, Olivier Kahn?
Il est certainement possible d'évoluer là-dessus. Juste un mot, il n'y a pas que le défenseur des droits. C'est-à-dire qu'il y a le défenseur des droits, il y a la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, il y a la commissaire aux droits de l'homme de l'ONU. Enfin, c'est-à-dire que la France est dans l'œil du cyclone pour ses méthodes de maintien de l'ordre, ce qui n'est pas tout à fait à notre honneur, puisque pendant très longtemps, au contraire, on était plutôt un modèle en la matière. Alors, est-ce qu'il est possible d'évoluer? Certainement, mais pour ça, il faudrait avoir un projet, et il n'y en a pas. Et on l'a vu avec la réaction de Christophe Castaner dans son discours du 8 juin. La clé d'étranglement, c'est certainement une technique extrêmement mauvaise, ou en tous les cas extrêmement dangereuse plutôt. Mais si vous la supprimez, vous la remplacez par quoi? Et si vous la remplacez par le taser, est-ce que le taser est mieux qu'une clé d'étranglement bien pratiquée par des gens qui sont formés et qui iraient régulièrement réapprendre des techniques qu'ils perdent probablement en ne les mettant pas en œuvre tous les jours? Donc voilà, il faudrait que tout ça s'inscrive dans un projet. Or, j'imagine qu'on en reparlera, mais de projets, enfin, pour faire des réformes, il faut des projets, il faut un projet politique, et il n'y a pas de projet politique pour la police.
Il n'y a pas de projet politique pour la police, commandant Nassim, c'est ce que vous pensez aussi?
Oui, enfin, je pense qu'à ce niveau-là, je pense qu'il y a une forme de blocage. J'attends de voir effectivement que donnera ce fameux livre blanc et ce schéma national. Mais c'est vrai que sur la technique d'étranglement, comme le disait Monsieur Kahn à l'instant, par quoi allons-nous la remplacer? Je dois le dire, et voyez-vous, je me fais aussi le témoin, l'avoir déjà utilisé. Et je ne peux que vous dire que les fois où je l'ai utilisée, elle a été efficace. Mais encore une fois, parce que nous avions des formations très régulières, j'avais la chance de faire beaucoup de sport à l'époque, donc on était dans une dynamique, ce qui est peut-être moins le cas aujourd'hui parce que il y a d'autres contraintes, d'autres suggestions, et ce qui est de nature aussi à faire reculer l'efficacité et au risque d'avoir des accidents mortels comme on a pu le voir si cela se confirme. Mais voilà aussi la réalité.
Avec Cédric Chouvien.
S'il n'y a pas de formation régulière, il y a un risque d'autant plus grand.
Alors la formation, justement, il faut en parler, vous en avez déjà parlé un peu tout à l'heure. Jean-Marie Schlosser, qui est un ancien policier devenu sociologue, disait récemment dans Politis, déjà dans la formation, il n'y a pas de définition claire du métier, la philosophie générale de la police, des missions de la police n'est pas abordée. Y a-t-il besoin, commandant Nassim, de repartir de là, de redéfinir déjà juste les missions de la police?
Oui, en effet, les missions comme ça, elles peuvent paraître tout à fait évidentes, mais parler de sécurité intérieure, ce n'est pas si évident que ça. Les missions sont diverses et variées. Je crois qu'il y a une direction que l'on a peut-être tendance un petit peu à oublier, alors que c'est la police du quotidien, c'est la sécurité publique. La sécurité publique, c'est 47-50% des effectifs de la police nationale. La police nationale, c'est 150 000 agents. Vous avez quasiment la moitié qui est en sécurité publique, qui est une police généraliste et qui traite du quotidien, des misères des uns et des autres, du différent voisinage au crime, à des infractions de gré moindre. Mais tout ça fait partie aussi d'une formation initiale, mais surtout, et je le rappelle, continue. Qui doit être là pour être un support, une aide, et ne pas laisser le policier à son triste sort et en lui disant vous devez agir avec discernement. C'est très facile de dire ça dans la théorie, mais dans la réalité du quotidien sur le terrain opérationnel, ce n'est absolument pas évident, et la solitude se fait sentir chez certains.
Olivier Kahn, là-dessus, sur la formation, Jean-Marie Schlosser, que je citais, dit aussi qu'il faudrait que cette formation soit davantage ouverte aux sciences sociales.
Oui, et que ce soit Jean-Michel Schlosser qui l'enseigne. mais non, il a parfaitement raison. C'est-à-dire que effectivement, c'est un angle mort de la formation des policiers. Les policiers sont plutôt bien formés en droit, ils sont très bien formés aux techniques, ce qui fait que quand ils sortent de l'école, ils sont plutôt à même de les mettre en œuvre. C'est ensuite en termes de formation continue, et là Jean-Michel Schlosser le dit aussi dans son article, en termes de formation continue qu'il y a un problème, mais la formation à l'école de police sur la technique policière, sur la rédaction d'un procès-verbal et autres est plutôt bien faite. En revanche, effectivement, il n'y a aucune réflexion en termes de qu'est-ce que la police, quel est son rôle dans la société, quel est son rapport à la population. Enfin, c'est expédié très rapidement. Ça a été fait un temps par Sébastien Rocher, mais il a eu le malheur de dire que l'IGPN n'était pas totalement indépendante et il a été viré.
Oui, c'est pas ce que disent les personnes à l'école en l'occurrence, mais enfin, on va pas rentrer là-dedans. Alors justement, l'IGPN, pour le coup, parlons-en, sujet qui fâche évidemment la police des polices. Alors certains disent qu'elle doit devenir totalement indépendante, d'autres qu'il lui faut davantage de moyens. Commandant Nassim, vous, quelle est votre position?
Moi, je pense que comme dans toute institution, le fait qu'il y ait un organisme, une inspection qui est chargée de connaître tant des affaires administratives, c'est-à-dire qui peut donner lieu à une procédure disciplinaire, ou à des affaires pénales, puisque là, en l'occurrence, l'IGPN a également vocation à traiter des procédures judiciaires mettant en cause des policiers. Donc, si vous voulez, il a une double casquette. L'IGPN a une double casquette. Mais je pense que c'est important qu'il y ait une inspection interne, une sorte de cabinet de contrôle interne qui s'occupe notamment des audits, etc. Mais je pense par ailleurs, et je crois qu'on ferait un grand pas, ça ne veut pas dire mettre complètement en cause l'IGPN, puisque l'IGPN peut avoir tout à fait son intérêt, c'est à mon avis créer une institution indépendante qui serait chargée de contrôler et voire même, pour aller beaucoup plus loin que le défenseur des droits, de sanctionner les forces de l'ordre qui auraient commis et avec en son sein une représentation de la société civile. Moi, je pense qu'on doit s'ouvrir à un dispositif beaucoup plus large et qui ne fait pas de l'ombre ou qui ne vient pas interférer dans l'action de l'IGPN ou de l'IGGN, puisque la gendarmerie est également concernée. Mais c'est simplement, ça permettrait d'avoir une transparence et imaginez aussi l'effet au niveau international si la France était capable, se dotait de ce dispositif-là. Ce serait juste une grande évolution.
Olivier Kahn, là-dessus sur l'IGPN et la réforme.
Je pense que le problème n'est pas tellement l'IGPN, mais la manière dont les magistrats travaillent. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, comme vient de le dire l'interlocuteur précédent, il y a deux choses. Il y a le côté disciplinaire et le côté pénal lorsqu'une infraction a été commise. Que l'IGPN soit saisie par le ministère de l'Intérieur, comme le ministère de l'Intérieur le fait pour enquêter sur des actes policiers et prendre d'éventuelles sanctions disciplinaires, j'ai pas de problème avec ça. En revanche, effectivement, que des magistrats saisissent systématiquement l'IGPN pour enquêter sur les policiers, c'est peut-être plus embêtant. On pourrait se dire, par exemple, qu'on a la chance en France d'avoir deux services de police, enfin de forces de police, et que par exemple les magistrats devraient qui ont la liberté de choix des autorités de police qu'ils saisissent pour enquêter, pourraient saisir plutôt les gendarmes pour enquêter sur les policiers et vice versa. Or, ça n'est pas le cas.
Ouais. Mais ça fait partie des pistes, parce que pour le coup, là-dessus, le pouvoir, enfin le ministère a dit, c'est quand même à l'étude une réforme possible de l'IGPN.
Oui, mais la réforme de l'IGPN que proposait l'interlocuteur précédent et qui l'apparenterait finalement au modèle britannique, est tout à fait une bonne réforme, mais elle ne sera pas faite. C'est-à-dire que on ne va pas instituer un organe indépendant de la police doté de sanctions, parce que ça provoquerait des réactions extrêmement brutales de l'institution policière qu'on ne peut pas se permettre au jour d'aujourd'hui.
Mais alors justement là-dessus, pour conclure peut-être, Olivier Kahn, c'est déjà ce que vous disiez tout à l'heure, on ne peut pas fâcher la police, surtout pas en ce moment, donc on ne fait rien. En même temps, quand quasiment toutes les manifestations depuis maintenant la loi El Khomri, en fait, dégénère. Ça ne satisfait personne. Ça n'est pas bon pour la démocratie. Donc peut-être quand même qu'on peut essayer de se dire qu'il faut faire quelque chose, non?
Oui, mais pour ça, il faudrait avoir un projet politique. Et je crois que ça fait très longtemps qu'on n'a plus de projet de réforme de la police, de réflexion sur la police, de rôle. C'est-à-dire on peut considérer que le dernier vraiment projet de fond, c'est la loi sur la police de sécurité de proximité, pardon. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le Sarkozy, donc le projet de la police de Nicolas Sarkozy, c'est vous n'êtes pas des assistantes sociales et il me faut du chiffre pour montrer à la population que la police travaille. Ensuite, on a Manuel Valls, dont le projet c'est de montrer que la gauche n'est pas laxiste en matière de police, mais c'est pareil, c'est pas un projet. Ensuite, on a la période du terrorisme, enfin des attentats, et puis on arrive à l'actuelle présidence, et là, enfin, on peut dire que la sécurité est un impensé du macronisme. Et donc, comme vous avez un impensé, on met d'abord Colomb, mais Colomb trahi en partant, en parlant de hubris du président et autres. Donc, on met le plus fidèle, Christophe Castaner, qui n'a absolument aucune idée, tellement aucune idée de ce que peut être la police, qu'on le double d'un policier pour l'assister. Et puis, comme ça se termine mal avec le discours du 8 juin, eh ben, on met quoi? On se dit, on entre en période électorale, ce qu'on va viser, c'est l'électorat de droite, donc on met celui qui ressemble le plus à Nicolas Sarkozy. Mais derrière tout ça, il n'y a aucun projet politique. Et vous disiez qu'on ne savait pas ce qu'il y avait dans le schéma national. En fait, il a fuité ce schéma national et il est extrêmement intéressant parce que, en fait, il y a effectivement le rapport de quelques principes, proportionnalité et autres, mais le schéma national, c'est en fait entériner l'évolution des pratiques policières qui montre bien que la police définit maintenant ses règles. Alors on n'est pas le seul pays, il y a la même chose en Allemagne, il y avait un article de Mme Kretschmann dans la revue Grief qui dit que quand le politique a disparu, le policier le remplace et qu'on entérine que le politique se contente d'entériner les techniques policières comme texte et comme pratique.
On arrête là provisoirement. En tout cas, merci Olivier Kahn. Merci d'avoir été avec nous, chercheur au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Merci à vous, commandant Nassim, pour votre témoignage et votre analyse aussi. Commandant de police, 37 ans d'expérience. Merci à vous deux d'avoir été avec nous ce matin. Il est 8h32.